L'apparition de Confucius est un événement gigantesque dans l'histoire de la civilisation chinoise. Ce grand moraliste, qui professait une doctrine essentiellement utilitaire, c'est-à-dire une doctrine qui se rapproche à bien des égards de ce que nous appelons aujourd'hui le positivisme, Confucius, dis-je, avait jugé opportun, pour le succès de son œuvre, de se présenter comme le restaurateur de la sagesse antique et de s'appuyer sur des documents qu'il attribuait aux âges primitifs de son pays. Ces déclarations laissent à cet égard beaucoup à désirer. Non seulement nous savons qu'il n'eut aucun scrupule d'altérer les textes offerts par lui à la vénération publique, alors que ces textes ne se prêtaient pas au succès de ses théories politiques et sociales, mais il suffit de lire avec attention les King ou livres canoniques dont il est considéré comme l'éditeur, et les échoues qui renferment les échos de ses enseignements recueillis par ses disciples, pour se convaincre que son esprit était inapte à tout travail de spéculation intellectuelle, et même d'exégèse et de critique. Il était à coup sûr un merveilleux observateur, et nul mieux que lui ne sut comprendre, ni à son époque ni plus tard, ce qui répondait le mieux aux sentiments et aux aspirations de sa race. Son contemporain, Lao Tse, ne l'avait toutefois qu'en assez médiocre estime, et il n'eut pas de scrupule à lui déclarer à lui-même. Que pouvait faire Confucius dans de telles conditions, alors qu'il se trouvait en présence d'une philosophie cosmogonique dont il n'était pas capable de saisir les concepts, et dans laquelle il ne voyait, en tout cas, rien qui puisse servir sa nation au point de vue pratique. Le seul qu'il était à même d'embrasser dans toute son étendue. La réponse, nous la trouvons dans les livres primitifs de la Chine, et en attendant que nous les ayons compulsés avec le soin désirable, dans les grands et très remarquables travaux de philosophie publiés d'âge en âge par les écrivains chinois. Pour aboutir à son but, Confucius avait jugé à propos de faire accepter par ses compatriotes le culte de ce qu'il nomme le Yao, mot que nous avons l'habitude de traduire par piété filiale, mais qui possède une signification bien autrement large dans les traités de morale, dans tout ce qui touche à l'édifice politique et intellectuel des Chinois, aussi bien de ceux des temps anciens que de ceux qui vivent encore de nos jours dans le plus vieil empire du monde. Faisant reposer sa doctrine sur la piété filiale, Confucius a établi comme une institution indispensable pour un peuple le culte des ancêtres. Il a su de la sorte faire vivre les hommes dans le respect du passé et n'avoir aucune ambition plus haute que celle de survivre par le souvenir chez leurs descendants. Dans nos pays civilisés, nous ambitionnons des honneurs pendant notre vie. Les Chinois en ambitionnent même après leur mort. Et les lois du Céleste Empire permettent de conférer des titres, des grades, des décorations à des défunts comme récompense des services rendus par leur progéniture. Cette manière de donner satisfaction à l'orgueil humain nous fait sourire. Mais sur les bords du fleuve jaune, on la prend au sérieux, et l'on aurait garde de rien dire, de rien faire, qu'il y soit attentatoire. Si nous nous moquons des Chinois en cette circonstance, ils nous rendent bien l'appareil, et ne fût-ce que par le dédain qu'ils professent pour une foule de nos progrès matériels et de nos institutions politiques. Avec une telle manière de comprendre la vie, le célèbre moraliste de Lou ne voyait aucun avantage à s'occuper de la loi initiatrice représentée par le Taiki et les raisonnements fondés sur les deux principes du dualisme primitif lui semblaient pour le moins des spéculations infructueuses. Il avait toutefois des motifs pour ne pas le dire tout haut. Nul doute ne subsiste à cet égard sur sa manière de voir. Ayant pris à cœur de concilier les intérêts du peuple et ceux du monarque, de proclamer hautement les prérogatives de celui-ci, tout en rendant les abus de son autocratie difficiles et même périlleux, il comprit combien il pouvait tirer parti pour dominer la masse d'une doctrine établissant l'existence d'autorités extraterrestres. ces autorités imaginaires, il en trouva d'abord la formule dans celle du ciel immatériel de la philosophie antique, mais dans les livres qui existaient de son temps. Cette formule était exprimée en des termes fort au-dessus de la compréhension des masses. Il chercha donc à la mettre à la portée du grand nombre. Le Taiki fut en conséquence représenté comme l'ancêtre de toutes les créatures. Et par suite, comme le principe magnanime et généreux qui a produit la vie sur la terre. L'idée de premier ancêtre de créature devait conduire rapidement à celle qui avait pour effet de personnaliser la loi suprême, c'est-à-dire à la mention de cet être supérieur appelé Chang-Ti, expression que beaucoup de sinologues considèrent comme l'équivalent de notre mot « Dieu ». Toutefois, à la même époque, sans doute, cette dénomination en apparence monothéiste vint s'associer aux réminiscences populaires d'un polythéisme grossier dont quelques anciens livres, notamment le Chang Tai King, nous fait connaître l'existence dans la haute antiquité chinoise. Le Chang-Ti représente de la sorte le grand prince ou chef de tous les génies. Ces génies, associés sans cesse au Kuei, mot qu'on a quelquefois traduit par « démon », étaient très nombreux, rendaient aux uns et aux autres des hommages dans les sacrifices. Puisque c'est surtout à propos de cette expression « Chang-Ti » qu'ont été engagées les grandes disputes au sujet du déisme ou de l'athéisme des Chinois, il ne me semble pas inutile de m'y arrêter un instant et de faire connaître les principales explications des lexicographes chinois sur son compte. Dans cette expression « Chang-Ti », il y a le mot « Ti » qui isolément est d'habitude traduit par « empereur » et le mot « Chang » qui est un qualificatif signifiant « élevé », d'où l'empereur élevé. On a préféré traduire « le suprême empereur ». Ce mot « Ti » signifie en outre « gouverner ». C'est communément le titre que l'on donne aux princes et la dénomination honorifique de celui qui gouverne le monde. À une époque reculée, c'est-à-dire à celle où il convient de faire remonter la rédaction des kings ou livres canoniques, nous le trouvons déjà avec son qualificatif Chang, suprême, assimilé au ciel. Et par suite de certaines interprétations des lexicographes chinois les plus autorisés, il reste peu douteux qu'il s'agisse alors d'un ciel idéal, distinct du ciel matériel, car si le mot « ti » désigne celui qui est arrivé par sa vertu à se mettre en accord avec le ciel, ou bien encore celui qui par sa vertu, en s'identifiant au ciel et à la terre, se tient dans la rectitude d'un point d'égoïsme, on nous dit aussi qu'il exprime l'idée de génie céleste, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut assimiler au dieu du monothéisme sémitique, bien qu'une telle assimilation soit peut-être un peu excessive. Le Chang-Ti dans le Chuking ou Bible des Chinois nous est bien présenté comme une divinité supérieure, mais cette divinité n'est pas seule l'objet du culte indigène. On lui associe d'autres puissances qu'on offre à la vénération de la foule, voire même les montagnes et les rivières, ainsi qu'un nombre indéterminé de génies. Et comme parmi ces objets de vénération, on mentionne les saisons, le froid et le chaud, le soleil, la lune, les étoiles et la sécheresse, on s'aperçoit bientôt combien il était difficile pour ces anciens cosmogonistes d'arriver à une notion abstraite de Dieu, détachée de toute assimilation avec le ciel matériel et les phénomènes de l'atmosphère. Il me paraît toutefois peu contestable que, dès une haute antiquité, les Chinois ont admis l'existence d'une personnalité céleste gouvernant le monde et appelée Chang-Ti. Mais il me semble en même temps qu'il y avait là une croyance populaire qu'il faut distinguer de la théorie cosmogonique suivant laquelle ce Chang-Ti aurait été le ciel initiateur, considéré comme la loi ou la cause primordiale de l'univers. Le Yi Qing, ou livre traditionnel des transformations, fait bien partie de la collection des ouvrages dits canoniques que Confucius se crut la mission de réunir et de transmettre à la postérité. Mais l'esprit qui en a inspiré la composition est tellement différent de celui des autres Qing qu'on a une tendance à l'en séparer complètement pour y voir un autre genre de manifestations philosophiques et morales de la Chine primitive. Or, dans ce livre étrange et sur lequel on a fondé les théories les plus bizarres, au point de vouloir lui attribuer une origine babylonienne, il est également fait mention du Ti, et plusieurs sinologues aux autorisés, notamment le révérend James Legge, n'ont pas hésité à y voir une mention de Dieu. Le père Gobille et Medhurst, tout en adoptant la même manière de traduire, n'avaient cependant pu cacher au sujet du sens de ce mot une certaine hésitation. S'il est vrai que le doute n'est plus guère possible à l'époque du philosophe Chui, qui définit le Ti par « seigneur et gouverneur du ciel », et même au temps plus reculé de 5 siècles où vivait le célèbre Wang Pi, au 3e siècle de notre ère, il n'en est pas ainsi pour le siècle de Confucius, et surtout pour les périodes qui ont précédé ce célèbre instituteur. Ces périodes, il est vrai, sont tellement obscures, on pourrait peut-être dire hypothétiques, qu'il est bien difficile de rien affirmer formellement au sujet de ce qui s'y passait. Il est néanmoins aussi sûr que possible que l'éclosion des théories cosmogoniques auxquelles se rattachent les termes de Tai Tik et de Chang Ti sont de beaucoup antérieures à l'âge durant lequel vécurent les deux grands philosophes chinois, Lao Tse et Confucius. L'obscurité profonde du Yin Qing permet malheureusement d'y trouver à peu près tout ce qu'on veut sur la cosmogonie. Il est même assez probable qu'il doit à cette obscurité le plus grand nombre de ses admirateurs. Parmi ceux-ci, il convient de citer Confucius, qui dans sa vieillesse n'hésita pas à dire qu'il avait commis la faute de trop négliger son étude alors qu'il était jeune et qu'il ne cultivait plus d'autre ambition que celle de parvenir à le bien comprendre avant sa mort. Je ne voudrais pas me prononcer d'une façon trop sévère et encore moins en termes trop enthousiastes sur ce que peut valoir ce premier des 5 Qing, et cela pour un motif très sérieux, à savoir que, dans ma pensée, il n'a pas été jusqu'à ce jour étudié d'une façon satisfaisante, surtout au point de vue philosophique et religieux qui m'occupe en ce moment. Qu'il me suffise de soutenir qu'en tout cas, l'idée d'un Dieu ou principe invisible, immatériel et directeur de l'univers y est énoncée dans des termes suffisamment clairs pour qu'on ne puisse à aucun égard le considérer comme une œuvre de source athéiste.